Bienvenue sur un nouvel hors-série de Rétrovision consacré entièrement à l'Atari ST. Et on commence avec l'envoûtant Prince of Persia, sorti en 1990. Vous incarnez l'infortuné prince de Perse et vous avez en tout et pour tout 60 minutes pour trouver votre chemin, terrasser les gardes, déjouer tous les pièges mortels qui se dresseront sur votre route afin de délivrer la princesse retenue prisonnière par le méchant vizir qui veut être calife à la place du calife. Pour mener à bien cette aventure, vous avez à votre disposition un vaste panel de mouvements. Notre bébé peut courir, s'accroupir, sauter, s'agripper à des rebords, avancer pas à pas, attaquer, parer et faire des contres à l'épée. Vous trouverez aussi, disséminés dans les différents niveaux, des fioles de soins, mais soyez prudents car certaines contiennent du poison. Mêlant habilement les phases d'action avec les phases de plateforme, Prince of Persia bénéficie d'une remarquable animation au niveau des mouvements des personnages. Son créateur, Jordan Mechner, a demandé à son frère de mimer les actions afin de s'en inspirer pour celles du prince. Une sorte de motion capture avant l'heure. Et c'est son cher petit papa qui s'occupa de la création musicale. Même 20 ans après, ce jeu n'a pas pris une ride et reste toujours aussi jouissif. Preuve de son succès, de nombreuses suites virent le jour, dont la trilogie entamée par les sables du temps. Et le prince n'a pas fini de faire parler de lui, car un film et un jeu tirés de celui-ci arrivent cette année. Rick Dangerous 2, toujours sur Atari ST, est la suite des aventures du célèbre explorateur qui cette fois-ci a costume de super-héros bien old school dans le genre Buck Rogers ou Flash Gordon. Du coup, l'armement aussi a changé. Fini les revolvers et la dynamite, place aux pistolets laser et aux mines à retardement pouvant être envoyées au loin. Le principe, quant à lui, reste inchangé. Il consiste à traverser des tableaux fixes, parsemés de pièges et d'embûches où il faudra extrêmement se concentrer pour avancer avec précaution, souvent au pixel près. Le principal souci, c'est sa très grande difficulté. Autant le premier niveau se fait sans trop de problèmes, autant les autres deviennent nettement plus ardus, avec des pièges pratiquement indétectables, à moins de progresser à tâtons, en faisant de minuscules petits pas, ce qui peut frustrer les énervés du joystick, mais après tout, n'est-ce pas là la principale vertu d'un explorateur digne de ce nom ? Les graphismes sont plus beaux par rapport au premier épisode, la palette de couleurs est mieux exploitée, ce qui nous donne des décors détaillés avec plus de textures. Par contre, les bruitages sont pratiquement inchangés et on retrouve toujours avec autant de plaisir le cri agonisant lorsqu'un des personnages se fait toucher. Ce Rick Dangerous 2 est aussi bon que le premier avec son lot d'améliorations tout en respectant la continuité du scénario, mais il garde le même concept qui a fait la renommée de la série. Bad Company, sorti en 1990 et édité par Logotron, est un jeu de tir dans le même style que Space Harrier, sauf qu'au lieu de voler dans les airs, les personnages se déplacent en marchant. Vous avez le choix entre un des 8 soldats de la Bad Company qui ont tous la particularité d'avoir la gâchette sensible. À la suite de cela, vous serez débarqué seul ou avec un ami sur une planète hostile habitée par une forme d'extraterrestre belliqueux. Il faudra tirer et surtout bien viser sur tout ce qui ne ressemble pas à un être humain. Vous avancez avec une vue à la troisième personne sur un chemin délimité en ligne droite avec la possibilité de revenir légèrement en arrière. Il est possible de changer d'arme, bien pratique pour les cibles aériennes et de regagner de l'énergie en se plaçant sous des arcs électriques. Facile et d'une durée de vie assez courte, Bad Company s'adresse aux fans de Run and Gun plutôt basiques, car il manque cruellement de profondeur pour nous donner envie d'y rejouer. Surtout qu'il faut bien le reconnaître, la version Amiga est à tout point de vue supérieure. Nebulus, aussi connu sous le nom de Tower Toppler, vous propose de contrôler un batracien en pleine ascension qui devra éviter des obstacles, sauter d'une plateforme à l'autre ou traverser le bâtiment diamétralement avec la caméra tournant sur 180 degrés. Les tours étant en trois dimensions, il faudra faire attention à bien s'orienter dans l'espace pour atteindre certains étages. Autant vous dire tout de suite, Nebulus se complique dès le deuxième niveau et espérer le finir nécessite de connaître chaque niveau par cœur et une bonne habilité pour ne pas se faire ralentir par les ennemis. Jetons un petit coup d'œil aux obstacles qui entourent l'édifice. Leur forme géométrique est typique des années 80. On retrouve d'ailleurs le même genre de forme dans le cultissime casse-brique Arkanoid. Même si Nebulus tient plus du casse-tête que de la plateforme, il n'en reste pas moins un jeu attachant, avec un principe innovant pour l'époque, et lorsque vous serez arrivé assez haut en escaladant une tour, vous ne lâcherez votre joystick qu'une fois celle-ci complétée, en arrivant jusqu'à son sommet, tellement le jeu est accrocheur. Entre chaque niveau, vous aurez le droit à un bonus stage sous la forme d'un petit shooter où le but est d'attraper le maximum de poissons. Voilà l'un des casse-briques les plus populaires de tous les temps, celui qui a fait connaître le genre au grand public, le célébrissime Arkanoid. Avec une conversion sur Atari ST tout à fait réussie, Arkanoid trouve son intérêt sur micro-ordinateur avec un concept simple et super addictif. Le principe est enfantin. Vous déplacez une raquette représentant un engin spatial, le VOS, et vous devez faire rebondir une balle afin de détruire des briques situées sur la partie supérieure de l'écran. Si vous voyez la balle accélérée, c'est normal, ce n'est pas un effet d'optique et encore moins un bug, la bille blanche ayant une fâcheuse tendance à prendre de la vitesse pour je ne sais quelle raison, mais n'oublions pas que nous sommes dans l'espace. On ne peut pas parler d'arcanoïdes sans parler des pilules bonus, très utiles lorsque vous arrivez à en attraper une, mais dangereuses si vous vous laissez déconcentrer en lâchant la balle des yeux. Ceux qui y ont déjà joué savent de quoi je parle. L'anéantissement de toutes les briques vous fait passer au niveau suivant avec leur lot de surprises. Vous avez la possibilité de jouer à la souris, contrôleur le mieux adapté pour ce style de jeu. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent, sur la borne d'arcade, il y avait une molette circulaire en métal, un peu comme dans Pong, et non un trackball qui, je trouve, manque un peu de précision pour les casse-briques. Comme on l'a vu dans Nebulus, les ennemis ont la particularité d'avoir des formes géométriques, tournant souvent sur elles-mêmes, très flashy et à la mode dans la deuxième partie des années 80. Pour les novices, Arcanoid peut paraître un jeu qui ne casse pas des briques. Et pourtant, avec ce concept simple, on se laisse prendre au jeu dès les premières secondes. Certains y trouveront toujours un excellent divertissement. Un temps où les jeux de plateau étaient tellement populaires que certains d'entre eux se sont vus adaptés en jeux vidéo. C'est le cas d'HeroQuest, sorti en 1991 sur ordinateur personnel uniquement. Développé par Gremlins, HeroQuest reprend exactement le même principe que son homologue en carton, sorti un an plus tôt par Game Workshop. Vous évoluez dans un univers Heroic Fantasy avec une vue en 3D isométrique, ce qui est l'idéal pour rester fidèle au jeu de plateau. Quatre types de personnages sont sélectionnables pour un total de 14 missions qui peuvent être accomplies en solo ou en équipe, chaque joueur devant jouer à tour de rôle en se passant la souris. Ne vous attendez pas à des règles complexes comme dans Dungeons & Dragons. Dans HeroQuest, tout est simplifié à l'extrême pour permettre aux néophytes une prise en main rapide, mais toutes les bases fondamentales du jeu de rôle sont bien présentes, excepté peut-être l'augmentation des niveaux, le fameux level up. Une fois plongé dans cet univers de donjons et de souterrains, les quêtes s'enchaînent rapidement, d'autant plus que la difficulté n'est pas très élevée. Qu'à cela ne tienne, la disquette d'extension Return of the Witch Lord apporte 10 nouvelles missions avec la possibilité d'importer son personnage et les équipements récoltés. HeroQuest reçut à l'époque de sa sortie plein de bonnes critiques de la part de la presse spécialisée qui le considérait comme l'une des meilleures adaptations de jeux de plateau en date. Allez, rien de tel qu'une petite partie de tennis pour s'oxygéner les poumons après avoir parcouru les donjons de l'univers d'HeroQuest. Game Player 2. Tennis Cup de Laurie Ciel était LA référence en la matière sur Atari ST. Cette simulation de sport offrait d'excellents graphismes et une bonne animation pour 1989, mais aussi un mode de jeu riche et varié avec 32 opposants, 4 cours, une phase d'entraînement, l'amélioration des caractéristiques du joueur, des sauvegardes et n'oublions pas les fameuses voix digitalisées de l'arbitre qui annonçaient les scores comme à Roland-Garros. L'écran principal est divisé en deux, avec une vue de l'arrière pour le tennisman contrôlé par le joueur, votre adversaire étant logiquement placé devant vous. 40, 15. Ajoutez à cela la possibilité de jouer à deux simultanément, même dans les doubles, Tennis Cup était une excellente disquette qui a dû donner envie d'essayer à un certain nombre d'entre nous ce sport si amusant à pratiquer, mais parfois ennuyeux à regarder. 40, 15. Certains d'entre vous se demandent peut-être où je vais chercher des jeux vidéo comme celui-là. Eh bien croyez-moi ou non, mais j'ai connu un ami qui m'a prêté à l'époque une copie de ce petit jeu au titre suscitant la curiosité, Renault marche à l'ombre. Vous dirigez un jeune loubard des années 80 ressemblant fortement à Didier Lambrouille qui doit absolument retrouver les pièces de sa mobylette dispersées dans les quatre coins d'une ville de banlieue dans le genre Drancy-sur-Yvette. Il faudra par la même occasion acheter ou plutôt taxer, racketter deux places pour le concert de Renault qui affiche complet, vous vous en doutez. Autant dire que le scénario a de quoi être original. Les graphismes, même si en noir et blanc, fourmillent de détails, avec un côté bande dessinée faisant penser aux œuvres de Franquin. Ils ont été réalisés par Didier Chanfray, à qui l'on voit aussi Nord et Sud, Tintin sur la Lune, ou bien Opération Jupiter, pour ne citer que. Si vous aimez cette ambiance à la Renault, genre loubar, bistrot et banlieue craignos, Marche à l'ombre pourrait vous intéresser un tant soit peu. Mais ce jeu a tout de même le mérite d'avoir son style bien à lui, avec son charme si particulier. Je ne pouvais pas finir ce hors-série sur l'Atari ST sans parler de Gauntlet, premier du nom. Adaptation de l'arcade à la base, Gauntlet est un jeu qui a marqué toute une génération, et même encore aujourd'hui. Ce fut l'un des premiers jeux que j'ai vu tourner sur Atari ST, et même essayer, Et si les graphismes sont ultra dépassés, le plaisir de jouer était bien là, avec un mode coopération pouvant aller jusqu'à 4 joueurs simultanément. Imaginez la scène, sachant que l'on ne pouvait brancher que 2 joysticks. Il fallait du coup se partager le clavier à 2. On était vraiment prêt à tous les sacrifices pour jouer après l'école. Le principe est de trouver et d'emprunter la sortie subtilement cachée dans chaque niveau, tout en détruisant le maximum de créatures qui oseraient se dresser devant vous. La série compte 8 épisodes, dont le dernier, qui est sorti en 2005, ayant pour nom Gauntlet Seven Sorrow. C'est la fin de ce hors-série numéro 4, entièrement dédié à l'Atari ST, mais ne soyez pas tristounet. Il y aura plein d'autres jeux sur cette machine qui seront présentés dans les prochains rétrovisions, mais d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!